Alors, si je vous disais qu'en tant que chrétien, chaque instant de ma vie était caractérisé par la joie et l'optimisme, vous ne me croiriez pas. Vous auriez raison de ne pas me croire parce que ce n'est pas vrai, pas du tout. Mais est-ce que je suis le seul chrétien ici, aujourd'hui, à trouver qu'il est parfois et peut-être souvent difficile de persévérer dans la foi? Levez la main si votre amour pour Jésus vous a immunisé contre le découragement. Quelqu'un? Non. La réalité, c'est que la vie chrétienne est difficile. La vie chrétienne est difficile. Et pas seulement la vie chrétienne en général, mais aussi plus spécifiquement le service chrétien, comme le fait de témoigner auprès de ses amis, par exemple, ou le fait de mettre ses capacités à contribution dans le cadre d'une église locale. C'est pas facile. On a l'impression de faire deux pas en avant, un pas en arrière, pour ne pas dire parfois un pas en avant et deux pas en arrière. Et si vous n'êtes pas chrétien aujourd'hui, je ne suis pas en train de vous donner envie de le devenir. Et là, j'en ai conscience. Mais en même temps, vous savez, ce n'est pas l'espoir d'avoir une vie plus facile qui doit nous motiver à vouloir devenir chrétien. C'est autre chose qui doit nous motiver à vouloir devenir chrétien. Quelque chose de bien meilleur auquel on va venir, j'espère, cet après-midi. Mais pour l'instant, en tout cas, si vous n'êtes pas chrétien cet après-midi, je préfère vous le dire tout de suite. La vie chrétienne est difficile, elle est difficile, franchement. Et si vous avez des amis chrétiens, je suis sûr qu'ils pourraient en témoigner, aussi bien que moi. Alors pourquoi? Pourquoi persévérer dans sa relation avec le Seigneur? Pourquoi continuer à lire la Bible? Pourquoi continuer à prier quand on a l'impression qu'on n'avance pas? Quand on a l'impression qu'on est toujours en proie aux mêmes difficultés et aux mêmes tentations, jour après jour, semaine après semaine, pourquoi continuer? Pourquoi continuer à fréquenter des chrétiens, à venir à l'église, par exemple? Pourquoi continuer à venir au groupe de jeunes adultes quand on a l'impression que nos amis non chrétiens s'amusent beaucoup plus que nous et sont beaucoup plus branchés que nous? Pourquoi continuer à témoigner de sa foi auprès de ses amis? Pourquoi continuer à essayer de faire croître sa petite église et à lui consacrer du temps et même de l'argent quand on a l'impression que c'est tout simplement peine perdue et quand on a l'impression qu'une petite assemblée d'une vingtaine ou trentaine de personnes, c'est tout simplement insignifiant et risible aux yeux du monde? Pourquoi continuer? Eh bien, à cause de ce que Dieu a fait et de ce qu'il fera. À cause de ce que Dieu a fait et de ce qu'il fera. Voilà pourquoi. Voilà toute la leçon d'ailleurs du texte qu'on est sur le point de lire et d'étudier ensemble. Il s'agit du psaume 126, un petit poème ou un petit chant qui a été écrit, semble-t-il, à une période bien particulière de l'histoire d'Israël. Au VIe siècle avant Jésus-Christ, les Israélites, à cette époque-là, sont en exil à Babylone, à 1000 kilomètres à peu près, à vol d'oiseau, de Jérusalem. Ils ont été déportés là-bas, déportés depuis leur pays en raison de leur infidélité à Dieu. C'est ce que nous apprend l'Ancien Testament. Mais vers la fin du VIe siècle, le roi qui est au pouvoir à Babylone autorise les Israélites à retourner dans leur pays d'origine, à Jérusalem. Et le psaume 126 a vraisemblablement été écrit pendant cette période où un certain nombre d'Israélites ont quitté Babylone et sont retournés chez eux, tandis que d'autres Israélites sont encore en exil dans l'attente de rentrer eux aussi un jour à la maison, au bercail si vous voulez. D'accord? Une partie des Israélites a fait le voyage et une autre partie est encore dans l'attente de le faire, ce voyage. Et le problème, c'est que cette situation semble s'éterniser, et pour cause, et pour cause. Elle s'éternise, cette situation. Pourquoi? Parce que c'est pas rien de faire déménager des centaines de familles sur une distance de 1000 kilomètres à travers le désert, surtout quand ces gens ont habité pendant plusieurs décennies au même endroit, et qu'ils y ont maintenant, là-bas, donc à savoir à Babylone, ils y ont maintenant leur maison, leurs affaires, leurs habitudes, leurs amis. C'est compliqué de déplacer tout ce monde. Surtout à cette époque-là. Et puis non seulement ça, mais il faut encore reconstruire Jérusalem. Jérusalem a été rasée. Il faut encore reconstruire la ville, reconstruire les maisons. C'est du boulot. Et donc beaucoup d'Israélites se demandent, on peut les comprendre, si ça en vaut vraiment la peine. Ça fait 70 ans qu'ils sont à Babylone. sont relativement bien installés. Est-ce que ça vaut vraiment la peine de retourner sur ce champ de ruines, affronter tous les dangers du voyage, les difficultés? Beaucoup d'Israélites sont tentés de baisser les bras devant la difficulté de la tâche et devant tout simplement la pénibilité de leur vocation, qui consiste à habiter dans cette terre promise. Comment continuer donc? Comment continuer? Eh bien, la réponse de ce psaume. Pour ton encouragement, souviens-toi de ce que Dieu a fait et pense à ce qu'il fera. Pour ton encouragement, souviens-toi de ce que Dieu a fait et pense à ce que Dieu fera. Le but a l'air sympa, mais il a l'air si difficile à atteindre. Comment ne pas céder à la tentation de tout simplement rester à Babylone? Eh bien, pour ton encouragement, nous dit ce psaume, souviens-toi de ce que Dieu a fait, c'est-à-dire regarde le verre à moitié plein, et pense à ce que Dieu fera, c'est-à-dire regarde ce verre à moitié vide, mais qui a vocation d'être rempli. Alors lisons le texte, il s'agit du psaume 126, un cantique des montées. Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Alors notre bouche riait de joie, et notre langue poussait des cris de triomphe. Alors on disait parmi les nations, l'Éternel a fait de grandes choses. L'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Nous sommes dans la joie. Éternel, ramène nos captifs comme des torrents dans le Néguev. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec cris de triomphe. Celui qui s'en va en pleurant, quand il porte la semence à répandre, s'en revient avec cris de triomphe quand il porte ses gerbes. Prions avant de continuer. Seigneur, merci pour ta parole et l'occasion qui nous est donnée de l'étudier ensemble. Te prions de rendre ces moments fructueux pour nous, s'il te plaît, par l'action bienfaisante de ton esprit en nous. Au nom de Jésus. Amen. Pour ton encouragement cet après-midi, souviens-toi de ce que Dieu a fait et pense à ce qu'il fera. C'est la leçon de ce psaume, je pense. Et la première chose que fait le psalmiste dans ce texte, versets 1 à 3, il s'agit de la première strophe, il y a deux strophes dans ce psaume, versets 1 à 3, première strophe, versets 4 à 6, deuxième strophe. Dans la première strophe, donc la première chose qu'il fait, c'est rappeler ce que Dieu a fait, et il le fait pour inciter les croyants à la reconnaissance et à la joie. Le psalmiste qui écrit donc ce poème, il sait très bien que les Israélites sont découragés par leur situation. Mais il veut leur rappeler à ces Israélites qu'il s'est passé des choses qu'ils n'auraient même pas pu imaginer quelques années, peut-être quelques mois auparavant. Qui l'eût cru? Qui eût cru qu'un jour les captifs, les Israélites pourraient retourner chez eux? Qui l'eût cru que ce roi de Babylone un jour autoriserait les Israélites à rentrer chez eux? Qui l'eût cru? Pourtant, il l'a fait. Et quand il l'a fait, tellement c'était incroyable, on se serait cru dans un rêve. C'est ça qu'il dit. Il a ramené des captifs à Jérusalem. C'était si énorme d'ailleurs que même les païens ont dit que Dieu avait fait quelque chose d'incroyable pour les Israélites. Même les païens étaient capables de reconnaître que c'était si incroyable ce que Dieu a fait. Et la leçon qu'il nous livre à la fin de cette première strophe, verset 3, il montre aux Israélites comment eux-mêmes devraient réagir par rapport à ce que Dieu a fait. En se souvenant de ce que Dieu a fait, nous sommes dans la joie. Dieu a fait. Vous savez, les païens le reconnaissent. Nous, à plus forte raison, devrions reconnaître ce que Dieu a fait. Dieu a fait de grandes choses pour nous. Nous sommes dans la joie, mes amis. Nous sommes dans la joie. C'est la leçon que le psalmiste est en train d'adresser à son auditoire. Vous avez déjà vu cette publicité à la télé? C'est une publicité que j'aime bien personnellement, où on voit une dame qui apporte à son mari son petit déjeuner au lit. Et le mari, il regarde le plateau que sa femme lui apporte et il voit qu'il y a juste un petit café dessus. Et après, il regarde sa femme et il commence à penser à cette croisière qu'ils viennent juste de faire et il commence à pleurer en se souvenant de cette croisière formidable où ils mangeaient des petits déjeuners incroyables sur le pont du bateau et ils pleurent là, et puis ils se souviennent, c'est donc une pub pour ces croisières. Je trouve ça très drôle. Mais la plupart d'entre nous, en fait, je pense pas qu'on réagirait comme ça, en fait. En réalité, on réagirait pas comme ça. La réalité, c'est que dans notre vie ordinaire, le souvenir d'une expérience extraordinaire nous fait du bien, en fait. Ça nous fait du bien. Je sais en tout cas qu'avec Suzanne et les enfants, on reparle régulièrement des choses qu'on a pu faire pendant qu'on était en vacances. Voilà, nos dernières vacances, l'été dernier, on se souvient des activités qu'on a faites, le camping, la montagne, des choses comme ça. Et ça nous procure de la joie d'y repenser. Quand on en discute, on sourit, on pleure pas, on dit oh, quand est-ce qu'on va y retourner? Non, on sourit, on a du plaisir à y repenser. Un autre exemple, personnellement, je sais qu'après 12 ans de mariage avec Suzanne, je peux parler d'elle, elle n'est pas là, elle est à côté avec les enfants, eh bien, vous savez, je repense régulièrement à la période de nos fréquentations et de nos fiançailles, et je me rends compte, en faisant cela, qu'une situation qui me paraît ordinaire aujourd'hui, voire à certains égards contraignante, être marié, avoir des enfants, être propriétaire d'une maison, devoir s'en occuper, c'est contraignant. Mais je me rends compte que cette situation, en fait, à l'époque où je fréquentais Suzanne, je n'osais même pas l'imaginer dans mes rêves les plus fous. Marié avec Suzanne, 4 enfants, propriétaire d'une maison, mais c'est incroyable. Et en fait, le fait de repenser à cette période me remplit de reconnaissance et de joie, vous voyez. Bon, j'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Et de façon un peu similaire, je crois, le psalmiste dans ce texte force les croyants à repenser à ce que Dieu a fait et qui aurait semblé à une autre époque, mais complètement incroyable, inimaginable, même dans leurs rêves les plus fous. Et donc il veut, je pense, corriger leur découragement en leur rappelant de bons souvenirs. Quand l'Éternel ramena les captifs. C'était comme un rêve. C'était comme un rêve. Notre bouche riait de joie. Rappelez-vous, Israélites, quand le roi, quand Cyrus a signé cet édit permettant aux Israélites de rentrer chez eux, mais on n'y croyait pas, vous vous rendez compte? La liesse dans la rue, vous vous rappelez de ça? Et il veut donc corriger leur découragement en leur rappelant ces bons souvenirs. Il veut que les Israélites se rendent compte que dans leur situation actuelle, qui certes est pénible, eh bien que le verre est quand même à moitié plein. Le verre est quand même à moitié plein. Et je crois qu'il y a là une leçon franchement très importante pour nous aujourd'hui. Pour nous qui sommes peut-être découragés, franchement découragés par l'expérience que nous faisons de notre vie chrétienne. C'est clair que le verre n'est pas plein. Mais il n'est pas vide non plus. Il n'est pas vide, il est à moitié plein. Et il ne faut pas l'oublier. Regarde, mon ami, regarde, contemple, souviens-toi de tout ce que Dieu a fait. Il t'a amené ici déjà aujourd'hui. Il t'a entouré de croyants, quel privilège. Il t'a préservé au fil des années, je ne sais pas quel âge vous avez, mais il vous a préservé au fil des années. Il a pris soin de vous. Et si vous êtes croyant, c'est que Dieu a fait naître la foi dans votre cœur. C'est que Dieu, sans doute, a mis quelqu'un sur votre chemin pour que vous entendiez parler de lui. C'est incroyable ce que Dieu a fait. Mais surtout, surtout, si tu es croyant cet après-midi, son Fils unique est mort pour toi. Il est mort et ressuscité pour toi. Il t'a délivré une fois pour toutes de la puissance du péché. C'est incroyable ce que Dieu a fait. Il t'a pardonné. Il t'a rendu juste à ses yeux. Il t'a adopté comme son propre enfant. Il a fait de toi son héritier. Il a fait des trucs inimaginables. Des choses qu'on n'aurait pas osé imaginer dans nos rêves les plus fous. C'est incroyable ce que Dieu a fait. Incroyable. L'Éternel a fait pour nous de grandes choses, dit le psalmiste. Nous sommes dans la joie. Nous sommes dans la joie. Le verre est à moitié plein. C'est incroyable. Et donc vous voyez, j'espère, pourquoi je disais que le psalmiste était en train, d'abord dans cette première strophe, qu'il était en train de rappeler ce que Dieu a fait pour inciter les croyants à la reconnaissance et à la joie. Il est si facile de basculer dans la morosité en tant que chrétien lorsqu'on oublie que Dieu a fait pour nous de grandes choses. Il a fait pour nous de grandes choses. Le secret de la joie chrétienne, c'est d'abord le souvenir. Le secret de la joie chrétienne, c'est d'abord le souvenir. Ce souvenir de ce que Dieu a fait. Et par-dessus tout, ce qu'il a fait pour nous, si nous sommes croyants, en Jésus. Et donc, tu peux continuer, mon ami. Tu peux persévérer. Parce que Dieu n'a pas rien fait pour toi. Il n'a pas rien fait pour toi. Il a fait de grandes choses pour toi. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Il y a la deuxième strophe. Et la deuxième chose que fait le psalmiste dans ce texte, versets 4 à 6 cette fois, c'est parler de ce que Dieu va faire. Et cette fois, il parle de ce que Dieu va faire dans le but d'inciter les croyants à persévérer malgré les difficultés. Est-ce que vous avez remarqué, quand on a lu ce texte, le changement de ton entre la première et la seconde strophe? Un changement de ton vraiment remarquable. Tout d'un coup, le verre n'est plus à moitié plein, mais il est à moitié vide. Tout ce qui semblait déjà s'être réalisé, en fait, finalement, dans la deuxième strophe, va encore se réaliser. Vous avez vu? Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, verset 1, mais verset 4, Éternel ramène nos captifs. Incroyable. Verset 2, notre langue poussait des cris de triomphe. Et verset 5, ceux qui s'aiment moissonneront futur avec cris de triomphe. Tout ce qui semblait être réalisé doit encore se réaliser, je ne comprends pas. En fait, le psalmiste est en train de décrire la situation de ces Israélites à cette époque particulière de leur histoire, où la possibilité de rentrer d'exil, dont certains ont déjà profité, mais encore, ils sont rentrés d'exil pour reconstruire une ville, enfin, c'était pas non plus des vacances, hein. Mais en tout cas, la possibilité de rentrer d'exil pour ces Israélites à cette époque représentait déjà un miracle extraordinaire que Dieu avait réalisé pour eux et qu'ils n'auraient jamais imaginé. Incroyable. Mais en même temps, pour ces Israélites, le retour d'exil n'est pas une réalité qui est encore pleinement accomplie. Dieu a réalisé ce qu'il fallait pour que cela s'accomplisse, mais le chemin est encore long pour que cela soit pleinement accompli. Ils sont donc dans cette période d'attente pénible, si vous voulez, une période d'attente compliquée où ils n'ont pas l'impression de voir tous les jours très clairement le fruit tangible, le fruit visible, le fruit sensible de ce que Dieu a fait pour eux. Mais le psalmiste, dans cette deuxième strophe, est en train de leur assurer, de leur certifier que le jour de la moisson approche, qu'il approche bel et bien, c'est-à-dire le jour où l'œuvre de Dieu sera pleinement achevée et manifestée aux yeux des Israélites et du monde entier. Ce jour de la moisson approche inexorablement, inéluctablement. Et la métaphore que le psalmiste utilise est intéressante ici. Il compare la situation des Israélites à celle d'un semeur qui répand sa semence en pleurant et qui attend le jour triomphal de la moisson. Mais pourquoi le semeur pleure-t-il à votre avis? Le semeur pleure parce que le grain qu'il sème, c'est du grain dont il se prive. Ce grain, le semeur aurait pu en faire de la farine et du bon pain. Il aurait pu s'en nourrir, il aurait pu l'utiliser pour nourrir sa famille. Mais au lieu de ça, le semeur, il le jette par terre. Il jette son grain par terre. C'est absurde. Mais pas du tout, en fait, hein. On en sait assez en termes d'agriculture pour savoir que ce n'est pas absurde de jeter son grain par terre. Le semeur sacrifie son grain, sachant que celui-ci lui rapportera un jour une belle moisson. C'est un sacrifice raisonnable de la part du semeur. Je sacrifie ce grain, je m'en prive, mais je sais qu'un jour la moisson viendra. Elle sera certainement abondante. Mais quand même, le temps de la semence, c'est un temps de sacrifice, un temps douloureux quand même, où le semeur, l'agriculteur, jette à terre son bien, peut-être pas le plus précieux, mais un bien qui lui est précieux. Et pourquoi le semeur a-t-il confiance en l'avenir? Parce qu'il a déjà vu son grain produire du blé la saison d'avant. Il sait ce qui se passe. Il est au courant. Et de la même façon, le psalmiste ici incite les croyants à croire à ce que Dieu va faire dans l'avenir en raison de ce que Dieu a déjà fait dans le passé. Tu peux croire à ce que Dieu va faire en raison de ce qu'il a fait dans le passé. Imaginez qu'arrive le deuxième tour d'une élection présidentielle. Et imaginez que vous ayez le choix entre deux candidats. Le premier est un jeune politicien inexpérimenté qui n'a vraiment rien à son actif. L'autre candidat, quant à lui, il a été ministre sous 3 gouvernements différents. Et avant cela, il a dirigé 5 entreprises qui ont toutes prospéré. Et puis, il a reçu 7 prix Nobel. Et puis, il a reçu des doctorats d'une douzaine d'universités prestigieuses dans le monde. Bon, vous seriez tenté de voter pour qui? Eh bien, dans ce texte, le psalmiste veut que nous soyons, de façon un peu similaire, il veut que nous soyons tentés, si j'ose dire, de faire confiance à Dieu, en raison de tout ce qu'il a, lui, à son actif. C'est pas rien, ce que Dieu a à son actif. Et le psalmiste veut qu'on fasse confiance à Dieu malgré les circonstances pénibles actuelles présentes de notre vie. Il veut qu'on sache et qu'on ait confiance en ce que Dieu va faire dans l'avenir en raison de ce qu'il a fait dans le passé. Et quand on se fie à Dieu sur la base de ce qu'il a fait, quand on se fie à Dieu sur la base non seulement de ce qu'il a fait mais aussi de ce qu'il a promis de faire, bien que le temps présent soit un temps de contrainte, un temps de larmes, un temps de fatigue, on va quand même continuer à répandre son grain, parce que c'est un sacrifice raisonnable, on peut être vraiment sûr que la moisson viendra. On sait que le temps de la moisson viendra. On ne souffre pas en vain aujourd'hui. On n'endure pas les difficultés en vain, ni les défaites apparentes, ni les tourments que nous causent nos péchés, notre incrédulité. Tout ça, on ne le supporte pas en vain, ni la frustration de ne pas voir Dieu agir tout de suite dans notre vie. Tout cela, on ne l'endure pas en vain. On continue malgré tout de semer notre grain en pleurant, parce que nous savons que la moisson viendra. Nous le savons parce que Dieu a déjà agi dans le passé. Et non seulement cela, mais il a promis d'agir de nouveau dans l'avenir. Nous savons que la moisson viendra. Et donc on continue à ce sacrifice raisonnable, on continue de semer notre grain, de se priver de ces choses et d'endurer les souffrances qui vont avec et de pleurer tout le temps en raison de notre confiance en Dieu, sachant qu'il agira dans l'avenir. Ce n'est pas en vain. Pourquoi ? Parce que notre foi éprouvée, pour citer un verset qu'on a vu en groupe de jeunes hier, en fait, au groupe de jeunes d'adultes, notre foi éprouvée se trouvera être un sujet de louange, de gloire et d'honneur lors de la révélation de Jésus-Christ. C'est l'apôtre Pierre qui dit ça. Et l'apôtre Paul, quant à lui, ajoute qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Voilà pourquoi les souffrances actuelles de la vie chrétienne constituent un sacrifice raisonnable. Voilà pourquoi le psalmiste, dans cette deuxième strophe, est en train de parler de ce que Dieu va faire, justement dans le but d'inciter les croyants à persévérer malgré les difficultés. Le verre est à moitié vide, oui, mais il ne va pas le rester. Il ne va pas rester à moitié vide. Un jour, il sera plein. C'est Dieu qui le fera. Et il l'a promis. Et voilà pourquoi je disais en introduction que la leçon toute simple de ce psaume était la suivante. Pour ton encouragement aujourd'hui, souviens-toi de ce que Dieu a fait et pense à ce que Dieu fera. Souviens-toi de ce que Dieu a fait, pense à ce que Dieu fera. La vie chrétienne est difficile. On a parfois l'impression de ne pas avancer, de faire du surplace, voire de faire de la marche arrière. On a l'impression de se priver de toutes sortes de choses qui ont l'air bien autour de nous. On fait parfois l'objet de mépris ou de moqueries en tant que chrétien. On a l'impression d'être ridicule et insignifiant. Est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux juste baisser les bras? Est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux juste renoncer à ce pèlerinage compliqué et simplement demeurer à Babylone, où on est bien installé depuis quelques années? Eh bien non. Non, nous dit ce psaume. Malgré notre découragement, il vaut mieux persévérer à cause de ce que Dieu a fait et de ce qu'il fera. Et vous savez, nous, aujourd'hui, on vit entre deux événements très importants de l'histoire des hommes. Aujourd'hui, en 2013, on vit entre deux événements très important dans l'histoire des hommes, entre le jour où Jésus est venu et le jour où Jésus reviendra. On vit entre les deux, voilà, 2013. Lorsqu'il est venu la première fois, Jésus est devenu un homme pour nous. Il a obéi pour nous, il est mort pour nous, il est ressuscité pour nous, il est monté auprès du Père pour nous, il a fait tout ça lors de sa première venue. Et en faisant tout ça, Jésus a garanti, et je dis bien garanti, notre délivrance de la captivité du péché et de la mort. Voilà ce qu'il a réalisé. Et donc, en fait, aujourd'hui, j'ouvre cette parenthèse, mais j'espère que vous avez placé votre confiance en Jésus. J'espère que vous êtes ainsi entré au bénéfice de ce qu'il a fait. Parce que ce qu'il a fait est fait. Et personne ne pourra jamais rien y changer. Je ferme la parenthèse. Mais aujourd'hui, on vit donc dans cet intervalle, dans un genre d'intervalle entre le jour de sa première venue, où il a accompli ces choses, et le jour de son retour, où son œuvre sera pleinement achevée et manifestée aux yeux du monde. Mais entre-temps, le verre est à moitié plein et à moitié vide en même temps. L'Éternel a déjà ramené les captifs et il n'a pas encore ramené les captifs. Nous avons déjà poussé des cris de triomphe en raison de ce qu'il a fait et nous n'avons pas encore poussé des cris de triomphe. Parce que Jésus n'est pas encore revenu et son œuvre n'a pas été pleinement achevée et révélée aux yeux du monde. Nous sommes dans la joie et en même temps nous répandons notre semence en pleurant. Concrètement donc, qu'est-ce qui peut nous aider à surmonter notre découragement ordinaire? Qu'est-ce qui peut nous aider à persévérer malgré une foi chrétienne qui parfois semble porter bien peu de fruits? Peut-être que votre vie chrétienne est superbement fructueuse tous les jours, mais dans ma vie, ce n'est pas le cas. Alors, peut-être que c'est juste pour moi cette prédication. Que faire concrètement? D'abord, comme on l'a vu, se souvenir de ce que Dieu a fait, prendre le temps de compter les bienfaits de Dieu dans sa vie passée, non seulement cela, mais surtout prendre le temps de compter les bienfaits de Dieu dans l'histoire des hommes, son bienfait suprême se trouvant en la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Et deuxièmement, ce qu'on peut faire, et ça aussi on l'a vu, penser à l'avenir. Et quand je dis penser à l'avenir, je suis pas en train de parler du lendemain, ni de la semaine prochaine, ni même de l'année prochaine. Je parle du jour futur, du retour glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Notre Sauveur et Seigneur qui nous réserve en héritage son royaume. C'est incroyable. Pensons à l'avenir. Le jour de la moisson approche et c'est la raison pour laquelle nous continuerons à vivre pour le Seigneur malgré les larmes, malgré les difficultés, malgré le découragement. Nous continuerons à semer, à répandre notre semence. Nous continuerons à chercher la face de Dieu au quotidien. Chaque dimanche dans ce lieu, nous continuerons de lui rendre un culte et d'étudier sa parole. Nous continuerons à lutter contre le péché dans notre vie, même si cela nous coûte. Nous continuerons à le faire, même si c'est difficile. Nous le ferons avec la confiance de l'apôtre Paul, qui a dit ceci. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous une œuvre bonne en poursuivra l'achèvement jusqu'au jour du Christ Jésus. Amen. Prions. Merci Seigneur d'avoir agi dans l'histoire et d'avoir promis d'agir dans l'avenir. Merci pour ce bienfait suprême qui se trouve en Jésus-Christ, en son œuvre à la croix. Merci d'avoir délivré les captifs. Et merci aussi pour la délivrance à venir, la délivrance ultime, le jour de la résurrection, le jour de notre entrée dans la gloire, le jour où nous recevrons notre héritage. Aide-nous, s'il te plaît, à nous souvenir de ce que tu as fait et à penser à ce que tu feras, et ainsi à trouver le courage nécessaire pour persévérer dans notre marche chrétienne. Amen.